Père Jean-Paul Sagadou, bonjour.
Bonjour.
Il y avait beaucoup d'hommes d'église au temps de l'apartheid. Pourquoi est-ce Monseigneur Tutu qui a pris le leadership de la lutte ?
Je pense tout simplement que c'est lié au fait qu'il était engagé dans une église qui était elle-même fortement engagée dans la lutte contre l'apartheid et qui s'était installée déjà depuis longtemps en Afrique du Sud. Et sa trajectoire personnelle elle-même va contribuer énormément à faire de lui une figure emblématique dans la lutte contre l'apartheid.
Alors, il était le chef de l'église anglicane, mais cette église était-elle vraiment la seule église qui luttait contre l'apartheid à l'époque ?
Pas du tout. En fait, si on veut être large, on distingue plusieurs groupes qui existaient à l'époque. Donc, les églises réformées hollandaises, donc qui étaient composées d'églises blanches, dont les Afrikaners, qui ont essayé de justifier théologiquement le régime de l'apartheid. Mais il y avait aussi les églises membres du Conseil sud-africain des églises, parmi lesquelles il y avait les méthodistes, les anglicans, les luthériens. Et puis, de l'autre côté, il y a l'Église catholique, qui avait d'ailleurs le statut d'observateur au sein du Conseil sud-africain des églises. Et puis, on peut peut-être signaler deux autres, les églises évangéliques, composées des baptistes, des pentecôtistes. N'oublions pas les églises indépendantes africaines, qui luttaient fortement pour l'africanisation du christianisme. Donc, une des églises qui s'est le plus manifestée contre l'apartheid, ce sont les Anglicans. Mais en fait, l'Église catholique n'a pas du tout été absente. Elle a été moins médiatisée, mais elle s'est beaucoup engagée elle aussi.
Donc en fait, en 1978, quand Desmond Tutu est devenu le chef du Conseil sud-africain des églises, c'est-à-dire de toutes ces églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, il n'a pas seulement affronté le régime d'apartheid, il a également affronté les églises hollandaises qui justifiaient l'apartheid.
Tout à fait. C'est pour ça que l'enjeu se situait à deux niveaux. Il fallait d'abord déconstruire la théologie dite de l'élection, donc qui est défendue par les églises réformée hollandaise et qui considère qu'il constitue le peuple élu, donc la théologie de l'élection. On a même parlé de décolonisation de la théologie en Afrique du Sud. Décoloniser cette théologie qui consistait à aller chercher dans la Bible des extraits bibliques pour justifier l'apartheid et donc la domination des Blancs sur les Noirs. Et puis de l'autre côté, de manière beaucoup plus directe, la lutte elle-même contre l'apartheid. Donc on va dire qu'il y a un front théologique et puis de l'autre côté un front politique, les deux étant le carrefour autour duquel l'action de Desmond Tutu va se déployer finalement pendant toute sa vie.
Et comment les pasteurs des églises hollandaises de l'époque pouvaient-ils justifier l'apartheid ?
Je crois que ça remonte déjà, vous le savez, depuis l'esclavage. La Bible a été récupérée et donc le fait de se sentir, de se réclamer comme peuple élu, c'était même une conviction pour beaucoup d'entre eux. Leur créateur et souverain Seigneur leur avait témoigné une grâce spéciale en tant que peuple particulier. Donc, ils se sont appropriés, on va dire, la Bible. Et le théologien Jean-Marc Ella parlera même d'une capture, en fait, de la Bible pour justifier la domination. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on considère que ce travail de décolonisation de la théologie devrait continuer jusqu'à aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelait la théologie de l'élection, c'est ça ?
La théologie de l'élection, tout à fait.
Et Desmond Tutu lui opposait la théologie de quoi alors ?
La théologie qui a été au cœur de la vie de Desmond Tutu est venue, on va dire, des États-Unis. Donc c'est la théologie noire. Vous savez, dans les années 70, aux États-Unis, puisque confronté aussi de l'autre côté avec la problématique de la ségrégation, il y a un courant de théologie qui va naître autour d'un théologien qui s'appelait James Cone, et donc qui va développer ce que l'on a appelé la théologie noire. Et cette théologie se voulait différente de la théologie qui a été transmise depuis Saint-Augustin jusqu'à Karl Barth. Et elle posait une seule question, en fait. Quel est le rapport entre l'Évangile et la lutte des Noirs pour leur libération ? Donc là, on est dans du concret, on n'est pas dans l'abstrait. Et la conviction qui animait donc tout ce courant de théologie, c'est que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance et ne supporte ni la cruauté ni la duplicité. Et c'est de ça que tout le courant anglican et ensuite catholique va s'habiller pour lutter contre la théologie de l'élection.
Et en tant que chef de l'église anglicane d'Afrique australe, est-ce que Desmond Tutu n'était pas tout de même sous la tutelle de la reine d'Angleterre et de l'archevêque de Canterbury? Et est-ce que cela ne lui posait pas des problèmes?
Je ne pense pas qu'on puisse le dire. Alors, c'est vrai qu'une partie de ses études théologiques s'est passée en Angleterre, mais ce n'était pas un soumis, c'était plutôt une personne libre qui a essayé de développer une spiritualité, une théologie adaptée à un contexte particulier qui est celui de l'apartheid en Afrique du Sud.
Est-ce qu'avec les théologiens de l'élection, les partisans de l'apartheid, Mgr Tutu a eu des disputes intellectuelles et théologiques comme il y en avait au Moyen-Âge ou à la Renaissance?
Oui, ça s'est passé surtout dans les écrits. Il a énormément écrit et ça s'est passé beaucoup dans des conférences. On a des textes de lui sur la souffrance de l'homme noir. Il a écrit sur la question de la liberté. Il a envoyé des messages aux églises d'Europe et des États-Unis. Il a dialogué avec la théologie africaine et la théologie noire. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y avait une sorte de concordance avec l'église catholique qui va aussi contribuer énormément à déconstruire la théologie de l'élection proposée par les églises réformées hollandaises.
Alors les catholiques ne sont que 6% je crois en Afrique du Sud, donc ils sont marginaux par rapport aux anglicans et aux méthodistes j'imagine. Ont-ils compté quand même dans la lutte contre l'apartheid?
Oui, ils ont compté. Peut-être que dans les débuts, le positionnement de l'église catholique, c'était comme une sorte de recherche d'une évolution de la société sud-africaine, alors que du côté de Desmond Tutu, avec l'église anglicane, on était déjà dans la recherche de la révolution. Donc là, j'oppose les deux termes, d'évolution et de révolution, parce que d'un côté, peut-être qu'il y a une forme de timidité, et de l'autre côté, on sent une forme de radicalité. Mais en fait, l'église catholique va assez vite et assez tôt déclarer l'apartheid comme un problème théologique et même comme une hérésie. Et ça va se repérer à plusieurs niveaux, individuellement chez des figures d'évêques catholiques, mais aussi des actions collectives du côté, disons, de la conférence épiscopale catholique à travers de nombreuses déclarations et ce qu'on appelle des lettres pastorales. En tout cas, de 1957 à 1986, ils vont multiplier les lettres pastorales pour appeler à lutter fermement contre l'apartheid.
En fait, ce que vous dites, Père Jean-Paul Sagadou, c'est que le message de Mgr Tutu dépassait de loin la seule église anglicane.
Exactement. Je pense que pour son temps et pour le nôtre aujourd'hui, il reste un modèle particulièrement important d'œcuménisme. Je pense que les églises ont le devoir de dialoguer aujourd'hui autour des questions de justice et de paix. Et donc, du coup, cette figure-là, elle est intéressante, en tout cas pour moi, parce que je fais des activités dans ce sens-là avec les jeunes sur le continent. Et je pense qu'il faut dépasser les barrières pour aller plus loin et avancer ensemble. Et d'ailleurs, deuxième raison pour laquelle cette figure m'intéresse, c'est quand même lui qui, avec Nelson Mandela, ont contribué à promouvoir ce que l'on peut appeler la théologie de l'Ubuntu, ce fameux concept qui dit « je suis parce que nous sommes ». Et je pense que notre monde aujourd'hui a besoin de retrouver cette forme d'humanité et d'humanisme où nous avons la reconnaissance mutuelle l'un de l'autre pour bâtir un monde commun.
Je suis par ce que nous sommes, c'est-à-dire ?
Je suis parce que nous sommes Ubuntu. Ça veut dire que, en fait, chacun d'entre nous ne peut exister sans la relation avec l'autre. Et c'est aussi une autre manière de faire advenir une autre façon de penser que celle du cogito cartésien qui dit « je pense, dont je suis ». Et donc là, on est dans une perspective de la relation qui permet à chacun de s'épanouir, de grandir. Et finalement, la nation arc-en-ciel autour de laquelle l'Afrique du Sud s'est construite, c'était autour et grâce à ce concept d'Ubuntu qui dit voilà, qu'il faut avancer tous ensemble, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit protestant ou catholique, il faut avancer ensemble.
Père Jean-Paul Sagadou, merci.